François Copé, conte tout simple, La robe blanche. Les Brésiliens au teint couleur jus de tabac, garrotté de chaîne d'or et dont le portefeuille est gonflé de contes de Raïs, s'imaginent connaître Paris quand ils ont assisté à une première d'opérette, fait le tour du persil au bois de Boulogne et soupé dans un restaurant de nuit. Et nous sommes de tels fanfarons de vice que nous donnons volontiers le titre de parisien à quiconque comprend vite un calembour et sait le prix d'une fille à la mode. En réalité, la vie tout entière d'un observateur ne suffirait pas pour explorer à fond la monstrueuse capitale dont chaque quartier, chaque rue même, a sa physionomie personnelle, son caractère original. La différence des types qu'on y rencontre est si tranchée que leur déplacement semble impossible. Quelle surprise pour le flâneur s'il voyait un coulissier juif des environs de la Bourse traverser les paisibles cours de l'Institut. Cette infinie variété d'aspects des rues de la grande ville est pour le véritable Parisien, le Parisien de Paris, une source inépuisable d'intérêt, et entretient chez lui, pourvu qu'il soit doué de quelque puissance imaginative, la fraîcheur et la vivacité d'impression du voyageur débarqué de la veille. Moi-même, qui suis né à Paris, qui l'ai toujours habité et qui pourrait me plaindre, comme Alfred de Musset, d'en connaître tous les pavés, je suis encore étonné bien souvent des découvertes que j'y fais dans mes promenades aventureuses. N'ai-je pas trouvé la silencieuse mélancolie d'un canal de Venise derrière la manufacture des Gobelins, et dans Grenelle, à deux pas du Champ de Mars, une place publique du Caire, brûlée de soleil, un excellent décor pour le meurtre du général Kléber, percé de 6 coups de poignard par le fanatique Souleyman al-Rabi. Quand je vins habiter le coin perdu du faubourg Saint-Germain, où je vis depuis une dizaine d'années, je me pris d'affection pour la très calme et presque champêtre rue Rousselet qui s'ouvre juste devant la porte de ma maison. Au XVIIe siècle, elle s'appelait l'impasse des Vaches, et elle n'était sans doute alors qu'un chemin à fondrière, mais quelques seigneurs avaient déjà construit de ce côté leur maison des champs. Et c'est là qu'est morte Madame de la Sablière, l'excellente amie de La Fontaine, dans son logis, près des incurables. Un hôtel du siècle dernier, situé au coin de la rue Oudinot, est devenu l'hôpital des frères Saint-Jean de Dieu, et les arbres de leur beau jardin dépassent le vieux mur effrité qui occupe presque tout le côté droit de la rue Rousselet. De l'autre côté s'étend une rangée d'assez pauvres maisons où logent des artisans et des petits employés, et qui toutes jouissent de la vue du jardin des frères. La rue Rousselet est très mal pavée, le luxe du trottoir n'y apparaît que par tronçons. L'une des dernières, elle a vu disparaître l'antique réverbère à Potence et à Pouilly. Peu de boutiques, et des plus humbles, l'échoppe du cordonnier envieux, le trou noir de l'Auvergnat, marchand de charbon, le cabaret d'angle avec l'enseigne classique « Au bon coin », et de tristes épiceries où vieillissent dans un bocal des sucres d'orge fondus par 20 étés et gelés par 20 hivers, à côté d'images d'Épinal. Une page de hussards dans leur uniforme de 1840, où le portrait authentique et violemment peinturluré du juif errant encadré des couplets de la célèbre complainte. Des linges sèches aux fenêtres, des poules picorent dans le ruisseau. On se croirait là dans un faubourg de province très reculé, un de ces faubourgs qui s'en vont vers la campagne et où la ville redevient village. Comme il passe à peine une voiture par quart d'heure dans la rue Rousselet, on y laisse jouer les enfants, qui sont nombreux dans les quartiers populaires, car les pauvres gens sont prolifiques et ignorent les doctrines de Malthus. Ils n'ont point le souci de doter le gosse ou la fillette qui entreront en apprentissage à 12 ans et gagneront leur vie à 16, et dans aucun ménage d'ouvriers, on n'a jamais entendu dire, comme dans Gabriel, « Si tout va de la belle façon, nous pourrons nous donner le luxe d'un garçon. » Aussi, dans le renfoncement du vieux mur sous la charrette abandonnée, il y a de fameuses parties de billes, allez. C'est effrayant ce qu'on y use de fond de culotte. Et à 4 heures, à la sortie de l'école des frères de la rue Vanneau, la rue grouille de moutards. J'ai fini par les connaître à force de passer là, par m'intéresser à eux, par leur sourire. Pour eux non plus, je ne suis pas un inconnu, et souvent, il me faut interrompre ma rêverie et répondre à un « Bonjour, monsieur !» que me lance une gamine en bonnet rond ou un jeune drôle en pantalon trop large. À la fête Dieu, quand ils établissent des petites chapelles devant les portes avec une serviette blanche, une bonne vierge en plâtre, trois roses dans un verre et deux petits chandeliers en plomb, ils me poursuivent en secouant une soucoupe où ma pièce de dessous sonne joyeusement. Enfin, ils me traitent en voisin, en ami, moi, le passant absorbé et inoffensif. Par les jours de septembre où il fait du vent, les galopins écartent devant moi la ficelle de leur cerf-volant et les soirs d'été, la petite fille qui saute en demandant du vinaigre s'arrête pour me laisser enjamber la corde. C'est ainsi que j'ai remarqué la petite boiteuse. Il y a bien longtemps de cela, je venais de m'installer dans le quartier et elle pouvait avoir alors 8 ou 10 ans. Ce n'était pas elle, hélas, qui aurait pu demander du vinaigre. En grand deuil, son père, un compagnon charpentier, venait de mourir. Elle s'asseyait sur une borne, sa petite béquille dans sa jupe, et elle regardait jouer les autres. Elle m'attendrissait, avec son air triste et sage, ses grands yeux bleus dans sa figure palote, et ses bandeaux châtains sous son béguin noir. À la longue, elle avait vaguement deviné ma pitié dans mon regard. Elle y répondait par un sourire mélancolique. Je lui disais au passage « Bonjour, mignonne !» Du temps s'écoula. 2 ou 3 ans passent si vite. Et un jeudi matin du mois de mai, où le jardin des frères Saint-Jean-de-Dieu embaumait la verdure nouvelle et où des fils de la Vierge flottaient dans l'air, je m'aperçus en sortant de chez moi vers 11 heures que la rue Rousselet avait un aspect de fête inaccoutumé. Parbleu, c'était le jour de la première communion des enfants. L'ouvrier qui mangeait tous les soirs du jésuite en lisant son journal avait eu beau déclamer « On n'est pas des païens !» avait déclaré la maman, et les enfants étaient tout de même allés au catéchisme. Et puis, la première communion des gamins, c'est une occasion de caler l'atelier, de faire une petite noce, et le savetier radical qui fumait sa pipe sur le seuil de sa boutique pouvait bien hausser les épaules et murmurer entre ses dents « Ah, malheur !» La rue n'en avait pas moins son air des dimanches. Hé, là-bas, la petite blanchisseuse qui courait en portant sur vos deux mains une chemise d'homme empesée comme une cuirasse, dépêchez-vous ! La pratique a fini de se raser devant le miroir attaché à l'espagnolette de la croisée, et l'on s'impatiente. Il y a de la presse aussi chez le pâtissier de la rue de Sèvres. Dès hier soir, on commandait des godivots, et la fruitière du numéro 9 est en train de faire une scène parce qu'on a oublié son nougat. Chez le perruquier, par exemple, la boutique peinte en bleu, où le plat à barbe en cuivre frissonne au vent printanier, ça empeste encore le cheveu brûlé. Mais l'ouvrage est fini, depuis longtemps. Toute la marmaille était frisée dès 7 heures du matin. Maintenant, c'est une affaire bâclée. On revient de l'église, et le monde se met aux fenêtres pour voir passer les communiants. Superbes les garçons, avec la veste neuve et le brassard de satin à franges d'or, excepté Victor, pourtant, le fils de l'ébéniste, qui vient d'attraper une paire de calottes. Aussi, quelle idée de laisser tomber sa tartine de résinée sur son pantalon. Cet animal-là n'en fait jamais d'autre, ah, ça lui apprendra. Mais ce sont les petites en blanc qui sont jolies, les blondes surtout. Le voile de mousseline leur sied à ravir. Elles le savent bien, les coquines, et elles baissent les yeux pour se donner une mine plus virginale, et aussi pour regarder leurs gants de filoselle, les premiers qu'elles aient mis de leur vie. Pour les brunes, elles ont un peu l'air de mouches tombées dans du lait. Mais qu'importe, leurs mamans ne sont pas les moins fières. Oh, les pauvres mamans! Elles se sont faites belles pour la circonstance, et elles ont arboré des toilettes qui révèlent des poèmes de misère et d'économie. Voilà une pèlerine de velours qui doit dater de l'exposition de 1867. Et voilà un cachemire français qui connaît certainement le chemin du Mont-de-Piété. Bah, les fillettes qui les accompagnent sont quand même habillées tout bas en neuf, et lorsque la pèlerine dit au cachemire « Elle est joliment forcie, votre demoiselle !» Le cachemire répond d'un air satisfait « Que voulez-vous ? Ava sur ses 13 ans. Et la pèlerine conclut ah, comme ça nous pousse. Enfin, c'est un beau jour pour tout le monde, et les pères, ces hommes, ça ne croit à rien, peuvent blaguer la cérémonie chez le marchand de vin. Il n'est pas moins vrai que tout à l'heure, à la paroisse, quand l'orgue jouait en sourdine, et quand les enfants ont marché vers l'autel en file indienne, les garçons d'un côté et les filles de l'autre, le cierge allumé à la main, toutes les mamans ont pleuré. J'avais bien vite reconnu ma petite boiteuse dans le nuage blanc des communiantes. Était-ce à cause de sa béquille noire sur laquelle elle s'appuyait pour sautiller, ou à cause de la robe de veuve de sa pauvre vieille mère qui la tenait par la main? Mais elle me sembla plus immaculée, plus pure, plus blanche que les autres. Elle me parut aussi plus émue, plus recueillie que ses compagnes. Son visage enfantin avait une expression naïve et mystique qui eût tenté le pinceau d'Holbein. Ce jour-là, j'accentuai pour elle mon bonjour amical, et j'étais tout heureux en m'éloignant de penser qu'elle aussi avait eu sa robe blanche. Une robe blanche, l'idéal de la parure pour les filles du peuple. Depuis lors, plusieurs printemps ont fleuri par de belles matinées du mois de mai. Plusieurs fois le vent parfumé a fait flotter les voiles blancs des communiantes dans la rue Rousselet. Des années ont passé, des années avec leurs printemps, mais avec leurs hivers aussi. Des choses ont changé, des gens ont vieilli dans ce paisible quartier. D'autres enfants jouent encore aux billes sous la vieille charrette. Mais le perruquier a fermé boutique, le savetier radical fume toujours sa pipe sur le seuil de son échoppe, mais sa barbe a grisonné. Enfin, on a lu un jour un billet bordé de noir, collé avec 4 pains à cacheter sur les volets fermés de la fruitière du numéro 9. Et maintenant, c'est une blanchisseuse qui s'est établie là, pour faire concurrence à l'ancienne qui demeure en face. Mais cela ne réussira pas, car la mère Vernier, la femme de ménage, une langue d'enfer dont je vous conseille de vous méfier, prétend que la nouvelle patronne est une sans-soin, qui lui a perdu une camisole, et que ses ouvrières sont des rien du tout, qui batifolent avec le sergent de ville. Vous savez, le grand blond médaillé, celui qui a une si belle moustache tombante de buveur d'eau-de-vie. Malgré tout, la rue Rousselet a conservé à peu près sa physionomie d'autrefois, et le mur des frères Saint-Jean est plus dégradé que jamais par les saxifrages. Mais la petite boiteuse, hélas, elle a très peu grandi, bien qu'elle soit une jeune fille à présent, et qu'en comptant sur mes doigts, je découvre qu'elle aura bientôt 20 ans. Quand je la rencontre, sautillant plus lourdement sur sa béquille, une béquille neuve un peu plus haute que l'ancienne, je n'ose plus dire « Bonjour, mignonne !» et je me contente de lui tirer mon chapeau. D'ailleurs, elle sort rarement. Sa mère est maintenant concierge dans la maison du brocheur, et la fenêtre de la loge qui donne sur la rue est placée trop haut pour que je puisse y jeter un regard en passant. Mais la présence de ma petite amie se trahit par le bruit incessant de sa machine à coudre. Elle travaille pour la confection, et il paraît qu'elle gagne d'assez bonnes journées. On m'a assuré qu'elle est bien plus infirme que je ne croyais, et qu'elle a une jambe toute séchée. Elle ne se mariera pas. Quel dommage. Cependant, presque toutes ses camarades de première communion ont déjà mis leur seconde robe blanche, celle du mariage. L'autre samedi encore, l'épicière a marié sa fille à son premier garçon. Je me doutais bien que ça finirait par là. Les dimanches soirs, quand la mère prenait le frais sur le pas de sa porte et quand les jeunes gens jouaient à la raquette, ils envoyaient toujours le volant dans l'allée du numéro 23, qui est noir comme un four, et ils disparaissaient ensemble, censément pour le ramasser. Comme c'est malin. Oh, l'épicière a bien fait les choses. On est allé autour du lac en grande remise, et l'on a dîné à la porte Maillot. Eh bien, au moment où la mariée est montée en voiture avec sa traîne de soie blanche et sa fleur d'oranger dans les cheveux, elle a l'air insolent, cette grande rousse. J'ai aperçu ma pauvre petite boiteuse qui se tenait à quelques pas de là, appuyée sur sa béquille, et qui regardait d'un œil d'envie. Hélas, il n'y aura bientôt plus qu'elle, de toutes les filles de son âge dans la rue Rousselet, qui n'aura mis de robe blanche qu'une fois dans sa vie. Fin.